L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes. Comptez par le professeur Ahmed Jabba.
Qui n'a pas souri un jour en écoutant ces histoires d'antan où un savant un peu fou ou un peu trop idéaliste essayait de changer le plomb en or ou plus utopique encore en tentant de découvrir le secret de la pierre philosophale? Quelques savants arabes se sont essayés à cet art par excellence qu'est la chimie. La chimie, l'alchimie aussi, et la physique également. La sixième partie de cette grande saga que le professeur Jabbar sait si bien nous raconter et nous conter, l'âge d'or des sciences arabes. Professeur Jabbar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors après les mathématiques, après l'astronomie et l'astrologie, ce soir la chimie et la physique sont parmi, disons, les grandes disciplines des sciences arabes, en attendant bien sûr la médecine. Alors ce soir, chimie et physique, vous avez essayé vous aussi de changer le plomb en or?
Non, je n'ai pas essayé, d'abord parce que je n'y crois pas maintenant, parce qu'on m'a expliqué quelle était la composition de la matière. Mais quand on avait la théorie qu'avaient les Grecs et les musulmans sur la composition de la matière à laquelle ils croyaient à l'époque, eh bien c'était tout à fait normal de croire qu'on pouvait changer, je vous dirai pourquoi, changer le plomb en or.
D'accord.
C'est à partir des théories auxquelles on croit. Donc ce n'était pas des idiots. Voilà, je le dis dès le départ aux auditeurs.
Ça promet pour la suite. Alors les Arabes justement, est-ce qu'ils avaient des activités en physique et en chimie avant l'avènement de l'islam, avant donc le 7e siècle?
Il y avait des activités dans toutes les sociétés de cette époque, en particulier chez les Arabes, que l'on peut classer dans la catégorie de la physique et de la chimie. Pour la physique, eh bien, dès qu'on porte quelque chose, il y a des problèmes de poids. Dès qu'on essaye de mettre des objets dans l'eau, c'est de la physique. Dès qu'on essaye de faire des alliages, ou quand on veut traficoter les métaux pour faire des mélanges, en faisant croire qu'il y a beaucoup plus d'or que d'argent, eh bien, en fait, on fait aussi de la physique. Si on veut absolument faire des constructions, il faut qu'on trouve des procédés ingénieux pour pouvoir soulever des pierres pour les amener jusqu'en haut. Donc la théorie des leviers, les leviers.
Je me souviens qu'un des premiers cours de physique qu'on a au lycée, c'est l'histoire de la poulie.
Oui, par exemple. Sans avoir de livre, sans rien du tout, avec l'expérience, on peut découvrir ses propriétés physiques. Propriétés du mouvement, de la statique, de la force, de la masse. En chimie, c'est la même chose. En chimie, quand l'islam arrive, à partir de 610, des peuples depuis des millénaires savaient produire des colorants. C'est de la chimie. Ils savaient faire des encres pour écrire. C'est de la chimie. Les femmes savaient se maquiller.
Ah oui, les cosmétiques.
C'est
oui.
De la cosmétique. Donc oui. C'est de la chimie subtile.
Oui, oui. Bien.
Les artisans forgerons savaient travailler les métaux. Savaient même faire des alliages. Savaient produire le bronze. Ça, c'est de la chimie industrielle, comme on dit. On savait faire des sabres. La technique des sabres, c'est la technique subtile du mélange de certains éléments ferreux, pas ferreux, pour faire un sabre qui se brise pas, ou qui est coupant.
Et qui soit maniable, léger.
Donc tout cela, c'est le résultat de combinaisons chimiques. Mm-hmm. Pour décorer les palais ou les maisons, on a inventé la céramique bien avant l'avènement de l'islam. Les Chinois avaient inventé le papier, mais qu'est-ce que c'est que le papier? C'est une manipulation de produits, soit naturels, végétaux, soit des chiffons, mélangés avec de la soude, etc. Et donc ça fait, à un certain moment, avec le soleil, la lumière, bon, ça fait du papier. Et puis je peux continuer. Le savon.
Bah oui, j'avais pensé aussi à la médecine, certains produits qu'on fabriquait,
Les médicaments.
Voilà, les médicaments et tout.
Et la dernière chose auquel ne pensent même pas les auditeurs, la cuisine, c'est de la chimie. L'art culinaire. Maintenant, il y a des chimistes spécialisés dans la chimie culinaire.
Oui.
Sauf que tout ce que je viens de vous énumérer, eh bien, c'est que les gens faisaient de la chimie, faisait de la physique sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose
sans le savoir.
Sans le savoir. Et là, on voit bien avec ces deux disciplines la différence entre savoir-faire. On le voyait moins avec les mathématiques.
Et savoir.
Savoir-faire
et savoir-savant. Oui.
Ah, le savoir-savant, c'est quand il y aura en plus de la théorie.
Alors, les sources anciennes de la chimie et de la physique arabe, elles viennent d'où? Quelles sont-elles?
Ah, alors là, elles sont pratiquement, exclusivement grecques et un peu égyptiennes. Presque exclusivement grecques et un peu égyptiennes. D'ailleurs, le mot chimie, eh bien, déjà, montre qu'il y a là des origines, soit grecques, soit égyptiennes, soit les deux. Alors, il y a trois hypothèses. Nous sommes dans la civilisation quand même qui domine. Hein.
Oui.
La civilisation qui domine. Donc, domine dans la culture est arabe. Donc, certains ont échafaudé la théorie que le mot kimia est arabe. Ils n'ont pas été suivis par beaucoup. D'autres disent non, le mot kimia est d'origine grecque. Et d'autres disent non, le mot kimia est un mot égyptien, même mieux. Les Grecs, quand ils parlent de l'Égypte, ils l'appellent le pays de kimia, de la pierre noire. Et donc, aujourd'hui, on ne tranche pas. La seule chose sûre, c'est que les Arabes, les musulmans, vont prendre le terme qui existait, probablement, ils vont l'utiliser pour nommer une activité bien précise, qui est une activité double, une activité appliquée, expérimentale, empirique, en laboratoire, et une activité théorique, qu'on appellera plus tard une activité ésotérique. Mais ça, c'est plutôt un jugement de valeur après. Il y a aussi le côté mystérieux, le côté initiation, etc. Et ce n'est que beaucoup plus tard, au XVIIe siècle, en Europe, lorsqu'on voudra distinguer les innovations chimiques, moléculaires, etc. de l'Europe, à partir de tout ce qu'on a appris de l'héritage arabe, alors on dira, les Arabes et les Grecs ont fait de l'alchimie, et nous les Européens, à partir de surtout du XVIIIe siècle, nous allons faire de la chimie.
Oui,
donc ils ont fait cette hiérarchisation, sous-entendu, la chimie moderne, c'est l'Europe, la chimie ancienne, comme elle n'est pas moderne, comme elle est un peu ésotérique, un peu charlatanesque, on va lui garder le mot ancien alchimie. Mm-hmm. Mais je vous assure, les Arabes n'avaient qu'un seul mot, pour parler des deux,
Kimia.
C'est alchimie. Très important ça.
Alors justement, quelles sont les disciplines de la physique qui ont été développées par les musulmans?
J'ai triché, je n'ai pas répondu à votre question précédente en fait.
Oui.
Je n'ai pas répondu complètement.
Oui, oui.
Bon, vous m'avez dit quelles sont les origines de la physique et de la chimie. Il faut juste dire que nous avons des noms de gens considérés comme étant de grands chimistes avant l'islam. Et ces noms, il y en a qui sont égyptiens, et d'autres qui sont grecs, d'autres qui sont mésopotamiens. Et même, parmi ces noms, il y a deux femmes. Alors pour les mathématiques, il y avait une femme, c'est Hypatie, qui est la fille de Théon d'Alexandrie au 5e siècle. Mais pour la chimie, il y a Marie, d'où le bain-marie.
Ah bon?
Oui, on l'appelle Marie la Juive d'ailleurs, ou Marie tout court. Et elle est recensée, elle est dans les ouvrages de bibliographie arabe. Attention, on lui attribue des livres et on lui attribue le bain-marie. Et puis il y a Cléopâtre, la fameuse Cléopâtre au petit nez.
Oui, oui.
Voilà.
Si ça en avait été plus long, la face du monde aurait changé.
Eh bien Cléopâtre, maintenant nous sommes convaincus d'après les travaux des historiens de la chimie, qu'elle a fait de la chimie. Et d'ailleurs elle est citée.
Pour mieux empoisonner ses ennemis, certainement.
Je ne sais pas. D'ailleurs on avait oublié tout à l'heure que le poison faisait partie de la chimie.
Oui.
Les poisons. Et donc voilà un peu la chimie, mais une grande partie vient d'écrits mésopotamiens et d'écrits grecs. Alors nous avons une liste, nous avons une dizaine d'auteurs grecs qui vont être traduits par les Arabes. Et une dizaine d'auteurs d'origine égyptienne, d'origine mésopotamienne, qui vont être traduits. Nous avons même la liste, je l'ai mis dans mon livre que j'ai publié en 2001 au Seuil à Paris.
Et le livre s'intitule ?
Le livre s'intitule Une histoire de la science arabe. J'espère qu'il sera traduit en arabe un jour.
Je reviens donc à la question, quelles sont les disciplines de la physique qui ont été développées par les musulmans maintenant?
Alors là, ils n'ont hérité que des Grecs. Pour la physique, il n'y a strictement aucune discussion. La physique savante vient des traductions d'ouvrages exclusivement grecs. Alors ces ouvrages concernent la statique, l'hydrostatique, pour les alliages, etc. La dynamique, c'est-à-dire le mouvement. L'hydrodynamique, c'est-à-dire le mouvement mais dans l'eau.
Oui.
L'optique. Alors dans l'optique, il y a les miroirs plans. Donc vous voyez, il y a déjà aussi des idées de vouloir utiliser la science savante pour résoudre des problèmes. Miroirs plans, des miroirs ardents.
Ça a servi à l'astronomie, tout ça.
Non, ça va servir à la guerre.
Ah, d'accord.
Parce que grâce aux miroirs ardents, comme on dit, on espérait pouvoir brûler les bateaux ennemis ou les forteresses ennemies sans s'approcher d'eux.
Oui, et le fameux miroir qu'on fait jouer avec le soleil et
voilà.
Qui permet d'enflammer.
Alors, on a attribué à Archimède la première initiative. Mais toujours est-il que nous avons des écrits. D'abord, nous avons des écrits grecs, traduits en arabe. Puis à partir de là, nous avons des auteurs. Ça commence dès Al-Kindi, le grand philosophe. Mm-hmm. Il y a Al-Kindi, il y a Ibn Sahl, il y a surtout Ibn al-Haytham et d'autres. Il y a aussi l'étude de l'arc-en-ciel. Mais pour le plaisir de connaître la loi, la théorie de l'arc-en-ciel. Vous voyez, voilà un bel exemple. C'est pas pour reproduire l'arc-en-ciel dans son salon. Les gens se sont demandé, mais comment expliquer l'arc-en-ciel? D'où ça
surtout
vient?
Surtout avec ce spectre de couleurs.
De couleurs, inversé en plus, double.
Oui.
Ben voilà une recherche, un bel exemple de recherche théorique désintéressée.
Oui, pour la recherche.
Voilà, on en parlera après. Il y a eu aussi l'étude du halo et des éclipses. Ça fait partie de l'optique. Il y a la mécanique. La mécanique entre dans la physique, mais on en parlera dans une autre émission. Et puis, il y a les études philosophiques sur le mouvement. Parce que ne croyez pas qu'il n'y a que les physiciens, mathématiciens, qui sont intéressés au problème de la physique. Les philosophes, à l'époque, s'intéressaient à tout. Et les philosophes se sont intéressés au mouvement, mais du point de vue théorique. Qu'est-ce que le mouvement, etc., etc. Et en particulier, nous avons déjà évoqué leur position au sujet du mouvement dans le monde supralunaire, le mouvement sublunaire. Donc voilà les grands thèmes de la physique arabe, écrite en arabe du moins, à partir des traductions d'ouvrages grecs.
Tout à l'heure, vous nous avez expliqué un petit peu cette vision du monde. Les Européens gardaient pour eux le terme de chimie et préféraient pour les musulmans et les sciences arabes le mot d'alchimie, hein, parce que c'était ancien, empirique, etc. Alors, pourquoi est-ce que justement on parle d'alchimie et de chimie lorsqu'il s'agit de la civilisation arabo-musulmane? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait deux types de chimie à l'époque?
Alors, aux yeux des musulmans, il n'y avait pas deux types de chimie. Il y avait une chimie avec un aspect théorique et un aspect expérimental. Dans l'aspect expérimental, il y avait des laboratoires. Parmi les laboratoires les plus anciens, c'est celui de Jabal ibn Hayyan et de ses élèves, fin du 8e siècle quand même.
8e siècle déjà?
Fin du 8e siècle, oui. Et il y a eu les laboratoires de Abu Bakr al-Razi, le médecin, qui était aussi un grand chimiste. Puis il y a eu des laboratoires de chimistes plus tard, comme al-Jaldaki et d'autres. Et donc, ça c'est le côté chimie expérimentale. Qui vont faire de la chimie exactement comme les chimistes vont le faire après en Europe et même aujourd'hui.
Avec leurs éprouvettes et
voilà,
tout.
Voilà, on manipule et on constate et puis on regarde, on explique, etc. Maintenant, l'explication. Alors, il y a un aspect théorique de la chimie. C'est d'essayer de classer les matériaux, de définir ce que c'est que la composition d'un matériau, d'une matière. Alors, il y avait les matières minérales, les matières végétales, les matières organiques. Pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée des musulmans, on faisait de la chimie avec des matières minérales et des matières végétales. Et puis, les musulmans vont étendre ça. Grâce à leur expérimentation, ils vont introduire dans la chimie scientifique l'étude aussi des matières vraiment organiques. Et ils vont vouloir savoir que le sang, qu'est-ce qu'il y a dedans.
Bien sûr.
Ils vont vouloir savoir les cheveux, comment ils sont faits. Ils vont les brûler, ils vont les mélanger. Les ongles, la chair, c'est intéressant. Parallèlement, ils vont essayer d'inclure toutes ces pratiques qui sont des pratiques un peu empiriques, un peu à l'aveugle, puisqu'ils sont tributaires des manipulations, ils peuvent avoir des accidents, etc., les inclure quand même dans une cohérence. Les savants font comme ça, les hommes de science.
On tâtonne et ensuite on voit...
On l'explique.
Voilà.
Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Ça, c'est ce qu'on appelle le début d'une construction théorique. Donc, on élabore des théories. La théorie qui était élaborée, déjà avant eux, ce sont les Grecs qui ont élaboré une théorie de la matière. Alors, elle est basée sur le principe du feu, de l'air, de la terre et de l'eau, les quatre éléments.
Oui.
Et ensuite, les autres éléments aussi, le froid, le chaud, le sec et l'humide. Et avec ces combinaisons, alors Aristote l'a étudié, les médecins l'ont étudié, etc. Mais toute la science exacte rentrait dans cette construction théorique que la matière était composée de ça. On n'était pas à l'époque atomique, ou l'époque moléculaire, ou l'époque des interactions, etc., ni à l'époque des électrons, bien sûr.
Mais ça, ils y sont arrivés après.
Non, alors ça, ils ont hérité ça des Grecs, d'abord.
D'accord.
Ils vont juste le perfectionner. Ils vont ajouter des degrés dans cette division des éléments constitutifs de la matière. Mais ils vont partir, ils sont obligés de partir d'une théorie. Alors, ils considèrent que la matière, qu'elle soit minérale, végétale ou organique, en fait, elle procède de combinaisons élémentaires que je viens de décrire tout à l'heure, qui sont la terre, le feu, l'eau et l'air. Et donc ces combinaisons En fonction du dosage des combinaisons, on peut mettre aussi des degrés, etc. Mmh. Donc Jabal ibn Hayyan va rendre la théorie plus subtile, quand même. En fonction de ces combinaisons, eh bien, on peut espérer, si on fait de bonnes combinaisons, et si on déforme les premières combinaisons et qu'on forme de nouvelles combinaisons, produire de nouveaux produits. D'où leur croyance qu'à partir du moment où toute la matière était composée des mêmes éléments, si on pouvait la casser, la faire éclater et la recomposer, puisque l'or est composé de la même matière que le plomb à l'origine, l'air, le feu, la terre, l'eau, etc., pourquoi ne pas rêver un jour, mais oui, en faisant éclater, écrabouiller le plomb, etc., en le mélangeant avec des tas de choses, de trouver les proportions, vous voyez cette idée mathématique quand même, les proportions absolument exactes pour avoir la transformation qualitative qui donne l'or. C'est pas si idiot que ça.
Non, c'est pas idiot, seulement aujourd'hui, ça fait sourire et c'est vrai qu'on pouvait avoir des rêves et des utopies à l'époque.
À partir du moment où vous n'avez que cette théorie qui explique.
Oui, vous avez raison, pourquoi ne pas y rêver ?
Les êtres humains, on met 4000 ans pour changer de théorie. D'ailleurs, oubliez toutes ces théories. Prenez quelqu'un dans la rue, même quand il est allé à l'école, il a tout oublié. Dites-lui quelle est la théorie qui gère le monde et il vous dira des bêtises. Ou alors il restera au niveau de la théorie qui a été élaborée par les Grecs au 3e siècle avant Jésus-Christ et qui se tient jusqu'à un certain moment. Ouais. En fait, il ne faut pas trop sourire de nos ancêtres. Ils étaient plus savants.
Je souris gentiment.
Voilà, gentiment. Voilà. Je suis leur avocat. Et donc, voilà pourquoi la chimie, en fait, chez les musulmans, avait marché sur deux jambes. Plus tard, comme cette chimie théorique, elle avait effectivement eu tendance à un moment donné, puisqu'on cherchait l'or et le plomb, à devenir de plus en plus secrète, à avoir un langage un peu ésotérique.
C'est comme ça qu'elle est devenue alchimie.
Alors on l'a appelée chimie ésotérique.
Oui, oui, donc
c'est-à-dire pour les initiés. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'une théorie. Enfin, le plus important dans tout ça, c'est pas que la théorie était fausse. Toute théorie, à un moment donné, montre sa fausseté. Et d'ailleurs, elle est dépassée par des efforts d'explication pour élaborer une nouvelle théorie qui englobe un peu la première, partiellement ou totalement, et qui l'enrichit pour expliquer les nouveaux phénomènes. Mais s'ils avaient eu de nouveaux phénomènes, ils auraient peut-être changé de théorie. Leur problème, c'est qu'ils avaient fait une chimie, une physique, une astronomie, dans un monde clos, oui, qui était un monde un peu fixe, et qui n'avait pas encore d'ouverture, que va donner la lunette, que va donner d'autres observations.
Alors, qu'est-ce que les musulmans ont apporté et ont réellement découvert dans le domaine de la chimie ?
Alors, pour la physique, on peut considérer que, à partir de l'héritage ancien, ils vont essayer d'améliorer tout ce qui était lié au miroir ardent, donc à ces miroirs qui pouvaient brûler les ennemis.
Donc l'art de la guerre.
L'art de la guerre. Mais en voulant essayer d'améliorer ces choses-là, ils ont été amenés à faire des études théoriques. Et donc, ils ont amélioré ces instruments de guerre, mais ils ont aussi fait des avancées en optique théorique. Et donc, ils ont étudié la réflexion, ils ont étudié la réfraction, et ils ont trouvé des résultats très très importants qui étaient à deux doigts d'établir les lois qui vont être établies en Europe par Descartes en particulier. Ils pouvaient les établir. Ils ne les ont pas écrites, mais ils étaient absolument à deux doigts de les écrire. Ça, c'est un apport théorique dans ce domaine-là. Il y a aussi un autre apport théorique en optique, c'est l'étude de l'arc-en-ciel. Là, l'étude de l'arc-en-ciel, c'est une recherche absolument désintéressée, théorique, purement scientifique, pour expliquer le phénomène. Alors, on a essayé bien avant Ibn al-Haytham qui est du 10e siècle, puis Ibn al-Haytham, lui, a fait des études très très sérieuses, et surtout, il a essayé d'expérimenter, etc. Et il a échoué, alors que c'est le plus grand physicien depuis l'Antiquité jusqu'au 17e siècle. Et c'est un physicien persan, qui s'appelle d'ailleurs Kamal ad-Din al-Farisi, qui est mort en 1319, qui va, le premier dans l'histoire de l'humanité, établir une théorie exacte scientifique qui permet d'expliquer l'arc-en-ciel, en bénéficiant à la fois des réussites, des avancées et des échecs de ses prédécesseurs musulmans. En particulier, Ibn al-Haytham avait déjà utilisé la sphère ardente, c'est-à-dire une sphère avec de l'eau, et il a fait passer de la lumière pour voir comment se faisait la réfraction, mais il ne l'avait pas appliqué à l'arc-en-ciel. Alors donc, il fallait ici l'appliquer. Il va prendre une idée d'Ibn Sina, le grand philosophe, Avicenne, qui disait qu'il faudrait peut-être assimiler les gouttelettes d'eau de la pluie à des petites sphères. Et donc, le phénomène que l'on voit est peut-être le résultat du passage de la lumière dans des sphères. Donc, il a refait le travail, presque en laboratoire, et il a vu que ça marchait. Mais le phénomène est très compliqué. Et donc, voilà comment une science expérimentale a avancé. Il y a une autre avancée théorique très très importante en optique, c'est qu'Ibn al-Haytham est le premier à avoir rompu avec la sacro-sainte position grecque qui disait que, pour voir, c'est l'œil qui éclairait l'objet. C'est lui qui a affirmé, puis montré par l'expérience, que ce n'est pas possible. Que la vision est un phénomène physique indépendant de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a une source lumineuse qui éclaire l'objet et il y a une réflexion, et c'est cette lumière qui se réfléchit qui va vers l'œil, et c'est le travail de l'œil puis du cerveau. Donc il replace l'œil dans une position centrale, alors que les Grecs ne l'avaient pas mise dans cette position, pour expliquer donc la formation d'une image. C'est pas par hasard, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres. Comme il avait une démarche scientifique, expérimentale et théorique, c'est lui qui va découvrir la chambre noire. C'est lui le premier qui va fabriquer la camera obscura, la chambre noire, celle de l'appareil photographique.
Oui, l'ancêtre de l'appareil photo.
D'ailleurs, on peut la reconstituer. Et donc, en faisant ces expériences, c'est lui le premier qui a imposé l'idée que la recherche scientifique, la recherche des lois de la nature, la recherche de la vérité, ne se faisait pas uniquement par la démonstration ou bien par des démarches empiriques. Il fallait observer, il fallait expérimenter ce qui était observé, et l'expérience devient centrale. Puis ensuite, dégager les lois à partir de l'expérience, dégager des choses théoriques, ensuite revenir à l'expérience pour tester la théorie. Eh bien, cette démarche-là, c'est la première démarche scientifique complète qui a introduit, comme un critère, on appelle ça une catégorie de la preuve, introduit l'expérience comme catégorie de la preuve alors que les Grecs l'avaient refusée. Ça, c'est un apport qui est reconnu à Ibn al-Haytham aujourd'hui, et donc à la physique arabe. C'est très très important. Donc ce n'est pas un apport mathématique, ce n'est pas un apport concret, c'est un apport méthodologique. Eh bien, cet apport méthodologique, il a fait avancer l'Europe quand même d'un siècle ou deux, parce qu'il leur a évité tous les tâtonnements qu'ont eu
toutes
les musulmans.
Toutes ces recherches à laquelle il a été astreinte. Parler tout à l'heure du miroir ardent justement pour les armées musulmanes. Alors dans quelle mesure, je vais dire, la chimie, jusqu'à quelle hauteur, si je puis poser la question comme ça, a participé justement au développement des technologies militaires pour les armées musulmanes et pour leur conquête éventuellement?
Alors il y a d'abord eu des apports de la chimie dans le domaine civil et dans le domaine militaire. Rapidement, dans le domaine civil, il y a eu donc poursuite de cette démarche grecque théorique qui a été affinée, rendue plus scientifique, qui a été testée aussi par l'expérience. Il y a eu aussi, par l'expérimentation dans les laboratoires, découverte d'éléments nouveaux. En particulier, nous savons que c'est Abou Bakr al-Razi, au Xe siècle, qui va découvrir la fabrication de l'alcool. C'est lui qui va dégager ce qu'on appelle les acides minéraux. Il va les identifier en tant que tels. Ça, c'est important. C'est Jaber ibn Hayyan, avant lui, au VIIIe siècle, qui va produire de l'acide sulfurique, qui va produire aussi de l'eau régale, qui est un acide particulier. Et c'est Razi qui, sur le plan théorique et aussi pratique, va essayer de mettre de l'ordre dans tout ce savoir chimique, c'est-à-dire va faire des classifications, c'est important en chimie. En géologie, en chimie, c'est important de classifier. Il va faire les classifications, les premières, en produits minéraux, végétaux, animaux, de la chimie elle-même. Et puis, il y a eu, non pas des découvertes, mais toutes les améliorations qui ont amené à faire de mieux en mieux de la peinture, de mieux en mieux de la cosmétique, de mieux de l'encre.
D'améliorer la qualité des produits.
Des produits, donc, absolument. Oui. Des produits de grande consommation ou bien pour les spécialistes. Et puis, on a produit aussi des consommables pour la chimie. C'est-à-dire que ce sont les musulmans qui, les premiers, ont dégagé ces notions, vraiment ces concepts de consommables. Et d'ailleurs, c'est resté dans les noms jusqu'à aujourd'hui.
Par exemple,
quand vous dites alambic, c'est, en arabe, c'est al-ambiq. C'est un instrument consommable qui se casse facilement.
Oui.
Pourquoi ? Parce que j'ai oublié de dire une chose très importante, c'est que la chimie arabe a été aussi la chimie du verre.
J'allais vous poser la question.
À la fois du verre ordinaire, comme la chimie du papier ordinaire, mais du verre raffiné, du cristal, du verre soufflé. La technique du verre soufflé, elle est syrienne. Et donc, parmi les mots qui restent encore aujourd'hui, il y a aludel, qui est l'outel.
C'est
un instrument de chimie. Oui. Il y a un tanour dans l'atanor. L'atanor, c'est un four spécial pour la calcination, pour certaines opérations de solidification, de calcination. Il y a l'amalgame. C'est molram. Il y a le mot alcool, bien sûr, alcohol. Il y a le natron, qui est un produit, c'est natron. Il y a l'alcali, qui est un produit dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce ne sont que quelques mots qui sont restés et qui, en fait, étaient des mots au quotidien de la pratique de la chimie arabe, qui vont passer dans les ouvrages arabes traduits en latin, parce que la chimie européenne va être la fille directe de la chimie arabe, exclusivement.
Oui, elle a largement puisé.
Pendant plusieurs siècles, jusqu'au XVIIe siècle. Voilà à peu près les apports de la chimie arabe, quelques éléments.
Les technologies militaires, elles ont largement bénéficié justement de tout ce savoir des sciences arabes.
Du moins, on le suppose sans l'expliciter du 8e siècle jusqu'au 12e siècle, parce que nous n'avons pas de témoignages écrits de cette première période. Nous avons des explications. Première, très naturelle, c'est que toute activité militaire est secrète. Mmh. Évidemment, toute innovation militaire ne vaut que si elle reste secrète, le plus longtemps possible. Et cela vaut pour les armées musulmanes, comme pour toute armée du monde. Et donc, ils ont dû sûrement emprunter des savoir-faire militaires.
Ils ont perfectionné
qu'ils ont perfectionné par la suite, sans le dire.
Oui.
Ils ont inventé sûrement des choses. Ils ont utilisé des matériaux. Et ce n'est que plus tard qu'on découvre, en fait, que... Enfin, les informations qu'on nous donne sur ce qui s'est passé au 12e, 13e, 14e, etc. Comme ils ne les datent pas, qu'ils ne disent pas que ça a été inventé au 12e, on pense que ce sont des choses qui, en fait, avaient été inventées avant. Pourquoi on en parle au 12e, 13e? Ben, ça reste une question chez les spécialistes. Pourquoi, brusquement, à partir du 12e, 13e, des livres de chimie militaire apparaissent? Enfin, des livres de technologie militaire. Et parmi les chapitres de la technologie militaire, je pense en particulier à un livre très important qui s'appelle le livre d'Ibn al-Ramah, le livre aussi d'un autre qui s'appelle le livre de Zardakashi, Kitab al-Manajaniq, les Mongonaux. Mais il y a des chapitres sur la chimie militaire. Qu'est-ce que c'est que cette chimie militaire? Eh bien, très vite, ils ont d'abord emprunté un secret chez les Byzantins. Ils ont dû prendre quelques prisonniers, ils ont dû les asticoter. Et ils ont maîtrisé ce qu'on appelle le feu grégeois. C'est un feu qui, en fait, était basé sur l'utilisation probable du pétrole. Or, le pétrole, dans les pays musulmans, était à fleur de terre.
Oui, oui, en abondance, oui.
Ils avaient des territoires jusqu'à Bakou, jusqu'à la mer Caspienne. Et dans certaines régions, il était à fleur de terre. Et très vite, ils ont su utiliser le pétrole comme étant à la fois pour soigner, donc une dimension médicale, et pour faire la guerre.
Une dimension militaire.
Voilà, ils l'utilisaient pour enflammer les forteresses ennemies. Il suffisait d'avoir des mongonaux ou des lances-flammes, si j'ose dire, suffisamment puissants. Donc il y a ça, utilisation du pétrole. Il y a aussi utilisation d'explosifs, d'incendiaires. Oui.
Déjà des explosifs.
Des explosifs, des produits incendiaires, de la poudre. Alors nous savons aujourd'hui que les armées musulmanes savaient faire des sortes de fusées. Elles sont décrites dans le livre d'Ibn al-Ramah, du 15e siècle, des fusées qui avaient plusieurs fonctions. Ils avaient différents types de fusées décrits, des fusées qui pouvaient uniquement faire peur à l'ennemi, qui explosait, qui faisait beaucoup de bruit. Il y a des fusées éclairantes. Il y avait des fusées éclairantes pour voir le mouvement de l'ennemi. Il y avait des fusées incendiaires. On lançait des fusées et elles avaient des ingrédients bien proportionnés, d'où la chimie. C'est l'art de la proportion.
Bien sûr.
Dans les objets, dans les matériaux et les matières premières, pour que ça explose et puis ça brûle surtout. Il y a eu même des fusées, vous vous rendez compte, hein, qui, c'était en particulier des petites boules comme ça, comme des grenades, hein, explosaient. Mais quand elle s'ouvrait, ben il y avait des serpents qui sortaient.
Oula.
Oui, oui, des scorpions qui sortaient, et ça terrorisait l'ennemi parce qu'il tombait dans la forteresse. Donc ça obligeait l'ennemi à sortir de la forteresse. Et donc vous voyez, ils avaient toutes les techniques diaboliques, mais à la base, il y a quand même des éléments de chimie et de physique pour pouvoir amener la destruction vers l'ennemi. Et enfin, nous savons qu'à partir d'un certain moment, probablement dans l'Occident musulman, d'après nos témoignages, peut-être même au Maghreb, l'invention de la poudre à canon.
Excusez-moi, moi j'ai toujours entendu dire que c'était les Chinois.
Justement, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut distinguer, la poudre a été inventée par les Chinois. Mais les Chinois l'ont utilisée pour faire des feux d'artifice. Faire des feux d'artifice
est une chose.
Faire les dosages nécessaires, donc on revient toujours à une démarche de chimiste. Et il y a eu des ingénieurs chimistes dans les armées musulmanes. Et donc, faire des dosages pour que la poudre qui était inoffensive, qui faisait que des feux d'artifice, ou des pétards, les deux, qui ne tuaient pas, devient un élément de propulsion ou de destruction. De propulsion, c'est-à-dire suffisamment forte pour lancer une boule, le boulet. Or ça, personne ne l'avait pu découvrir, parce que ça ne suffit pas d'avoir une poudre. Il faut un dosage avec le salpêtre, avec du potassium, et un travail de laboratoire fin et secret, et ils ont découvert la proportion. D'ailleurs, les proportions sont tellement bonnes que lorsque les Européens vont devenir les plus puissants en guerre, ils vont découvrir la poudre, ils vont trouver les proportions qui n'étaient pas très éloignées de ceux qu'avaient découvert les Maghrébins ou les Andalous. Seulement, voilà, à l'époque. Donc ils avaient une arme redoutable. D'où d'ailleurs l'avènement des canons chez les musulmans.
Les musulmans ont été les premiers,
en particulier au Maghreb et même à Grenade. Nous avons des témoignages de Ibn al-Khatib qui disait qu'une certaine forteresse a été gagnée par le roi de Grenade parce qu'il a utilisé pour la première fois un canon avec de la poudre et avec des boulets. Seulement voilà, ça nous permet de dire quelque chose qui est très très important aux auditeurs, c'est que parfois dans une civilisation, ça dépend à quelle époque on fait les inventions. Si cette poudre avait été inventée, la poudre à canon avait été inventée 2 siècles ou 3 siècles avant, peut-être que la puissance des armées musulmanes aurait été décuplée. Seulement, quand vous inventez quelque chose qui est révolutionnaire, mais dans un contexte politique de désagrégation, dans un contexte économique de déclin, de crise, dans un contexte idéologique complètement pourri, alors même la plus belle innovation, voilà, elle est absolument inefficace. C'est comme si vous inventez la bombe atomique et vous la donnez à un peuple qui n'arrive même pas à se nourrir. Il ne saura pas l'utiliser.
Ou alors ils se font tous exploser.
Ouais, c'est une image peut-être un peu trop brutale.
Oui, je sais.
Mais enfin, c'est pour montrer la disproportion.
Voilà, et surtout, ça dit bien ce que ça veut dire.
Et surtout la contextualisation. Mm-hmm. Les sciences, elles sont efficaces avec le développement de la société. S'il y a une harmonie, si les sciences sont enrichies au bon moment, elles participent au développement. Si elles arrivent trop tard, ben, elles ne peuvent pas participer. Mm-hmm. C'est comme aux mathématiques, on a inventé le symbolisme qui permet de concentrer la pensée. Avant, les mathématiciens écrivaient des dizaines de pages pour démontrer un théorème. Avec le symbolisme, aujourd'hui, on fait une demi-page pour démontrer la même chose. Or, le symbolisme a été complètement développé au Maghreb au XIIIe siècle, XIVe siècle. Mais c'est comme s'il était arrivé trop tard.
Oui, c'était au moment du déclin.
Des éléments de déclin.
Oui. Pour ce soir, est-ce qu'il y a des livres de physique et de chimie qui ont été traduits en latin, puisqu'au départ on a dit que le savoir des sciences arabes est parti de la traduction des Grecs, des Indiens, etc. Alors dans l'autre sens, est-ce qu'il y a donc des livres de physique et de chimie qui ont été traduits en latin et est-ce qu'ils ont contribué au développement de ces deux disciplines en Europe?
Alors,
je suppose que la réponse est oui.
Oui, la réponse est oui. D'une manière générale, toutes les sciences développées par les savants du monde musulman ont eu une partie de la production qui a circulé en Europe. Mais c'était quand même au hasard de la découverte des manuscrits. Et pour la physique et la chimie, alors nous sommes mieux informés pour la physique, mais pour la chimie, ce sont les conséquences qui nous permettent de dire qu'il y a eu circulation. C'est que dans les manuscrits latins, à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, à la fois au niveau de la terminologie, dont on a donné quelques exemples aux auditeurs, par exemple, si c'était à la télévision, j'aurais montré des instruments utilisés par les chimistes arabes et musulmans, qui étaient absolument des copies conformes que l'on retrouve en Europe. Et parfois même avec le même nom. Par exemple, il y a un instrument qui s'appelle la tête de mort. Il y a aussi les consommables, comme l'alambic, etc. Donc on les retrouve avec les mêmes noms, décrits de la même manière, parce qu'on a aussi des copies dans les manuscrits arabes. Et puis, surtout, les opérations chimiques, qui sont parvenues, parce qu'il y en a qui étaient restées secrètes, eh bien, ce sont à peu près les mêmes. Pendant plusieurs siècles, l'Europe s'est nourrie de la chimie arabe, à travers souvent des écrits anonymes. Pourquoi ? Parce que les écrits sur l'expérimentation ont très peu circulé, peut-être parce que souvent l'expérimentation est restée confidentielle. Et puis, ce sont les écrits ésotériques sur la philosophie de la chimie, sur les théories chimiques, qui ont circulé pour des raisons liées au fait que ceux qui ont cherché les ouvrages ont cherché des ouvrages qui étaient liés à la philosophie. Mmh. Et donc, ils ont trouvé ces livres-là, ils les ont assimilés peut-être à la philosophie, c'est une des explications. Toujours est-il qu'on n'a pas d'auteur explicite, sauf Jabir ibn Hayyan, bien sûr, c'est le grand. Alors là, il y a des livres attribués à Jabir ibn Hayyan et traduits en latin. En physique, nous avons des livres de mécanique qui ont été traduits en arabe parce que la mécanique fait partie de la physique. En particulier, un livre de Thabit ibn Qurra, qui est un sabéen qui est mort en 901, qui est un païen, sur la balance. Quand j'ai donné toute la liste des thèmes de la physique, il y a aussi les balances, etc.
Oui.
Et puis, il y a le grand livre d'Ibn al-Haytham, qu'on appelle le livre de l'optique, qu'on appelle en arabe Kitab al-Manazir. Il faut que les gens connaissent aussi le nom en arabe, parce que c'est important. C'est un monument dans l'histoire de la physique. Il a été publié au Caire par ce grand mathématicien irakien de Bassora. Il fait à peu près 500 pages. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas une traduction française. Et jusqu'à maintenant, nous n'avions pas l'édition arabe en tant que telle. Mais heureusement, il y a un grand professeur, le professeur Sabra de Harvard, aux États-Unis, qui, malgré son âge quand même, est en train de publier depuis une vingtaine d'années, régulièrement, tous les chapitres de ce grand livre de l'optique. Et ce livre, le livre de l'optique, contient à la fois la théorie et la pratique de la science de l'optique chez les Arabes. Et c'est là où il y a la profession de foi de ce grand savant qui dit « La science, la recherche des lois de la nature, la recherche des vérités scientifiques se font par l'observation, l'induction, la réflexion, la théorisation et le retour à l'expérimentation. »
Vous voyez que j'avais raison quand je disais que c'est étonnamment moderne.
Oui, absolument. D'ailleurs, cette méthode d'Ibn al-Haytham va être considérée comme moderne par les Européens au-delà du XVIIe siècle. À tel point que, dans les images d'épinal européennes, quand on montre les savants, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on montre à côté des symboles de la science européenne naissante, c'est-à-dire Galilée en particulier, on montre à côté de lui Ibn al-Haytham comme étant le symbole d'une science qui est presque éternelle. C'est-à-dire qu'on le met au même niveau que Galilée, qui est le symbole de la renaissance scientifique européenne. Et ça, c'est le plus bel hommage donné à la science arabe, c'est-à-dire à la science écrite en arabe et produite dans le monde musulman de Samarcande à Saragosse.
Est-ce que ça ne serait pas aussi un bel hommage pour Galilée que de le mettre au niveau d'un monsieur aussi, je dirais, à l'esprit aussi évolué?
Ben à cette époque-là, oui, absolument.
On peut le voir dans l'autre sens.
On peut le voir dans l'autre sens, oui, bien sûr, bien sûr.
Alors pour ce soir, qu'est-ce qu'on dit? Merci déjà pour nous avoir explicité physique et chimie. Du coup, je me réconcilie avec les matières que j'ai boudées à l'école. Hein. Je pense que je ne serai peut-être pas la seule ce soir. En tous les cas, merci professeur Jobal de nous conter ça avec toujours autant de passion, de précision, des détails que vous avez le don d'aller trouver et chercher pour nous garder, je dirais, en haleine. Alors je vous dis bonne soirée, puis on se retrouve la semaine prochaine, c'est, je crois, la mécanique ou la médecine. Ben, on verra la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, donc vous saurez, ce sera la suite de notre saga sur l'âge d'or des sciences arabes.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Jabbar. Présentation Dalila Smaril. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fourage.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.